This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, 1968, eh bien, c'est une guerre. C'est la guerre du Vietnam. Les États-Unis, qui ont succédé à la France dans la présence dans cette partie de l'Asie, la presqu'île indochinoise, eh bien, les États-Unis vont commencer à s'enfoncer dans une guerre qu'ils ne souhaitent pas. L'opinion américaine n'y est pas préparée et malgré les exhortations du président Kennedy, puis du président Johnson, qui va hériter de cette situation après l'assassinat du président Kennedy, eh bien, l'opinion est peu favorable à cette guerre et les choses vont se gâter avec des manifestations de tous ordres aux États-Unis. 68, c'est un tournant. Un tournant pourquoi ? Parce qu'on va passer d'une guerre de maintien de l'ordre, en tout cas de... une guerre qui s'oppose à une guérilla, c'est-à-dire l'opposition d'une armée régulière, surarmée, très, très équipée, très, très sophistiquée, à une armée de, j'allais dire, de va-nu-pieds, de gens peu habitués aux confrontations militaires classiques, pratiquant plutôt la guérilla. Et donc, à partir de 68, eh bien, on va avoir un changement considérable, puisqu'on va passer à une confrontation militaire beaucoup plus classique, mais avec toujours une dimension de guérilla. Ça s'appelle l'offensive du Tet. Ça va avoir lieu le 31 janvier 1968. Voici un témoignage des forces américaines, vu côté américain, de ce qui se passe peu avant l'offensive du Tet.
Au début de l'année 1968, 3 ans après l'arrivée au Vietnam des troupes américaines, le nombre de soldats déployés atteint presque 500 000. Ils combattent une force armée de près de 300 000 soldats nord-vietnamiens et guerriers russes. La stratégie militaire américaine est de bombarder au nord les sites industriels et les points de ravitaillement clés, tout en lançant au sud des opérations de recherche et destruction de grande ampleur. Le succès se mesure à l'aune des cadavres ennemis, et non des territoires conquis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aussi, le président Johnson et ses conseillers militaires, dont le général William Westmoreland, à la tête des opérations au Vietnam, affirme devant le peuple américain que la victoire est à portée de main. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'armée populaire vietnamienne et le FNL, le Front National de Libération du Vietnam du Sud, ne déposent les armes. Pourtant, les Vietnamiens luttent avec succès depuis plus de 1000 ans contre les forces étrangères. Et avec une population de plus de 16 millions d'habitants, le Nord-Vietnam est tout à fait en mesure de remplacer les soldats tombés au combat. Ainsi, les troupes américaines sur place sont obligées de combattre en permanence, jour après jour, sous la menace constante d'un ennemi invisible, mais omniprésent.
Ici, la tension ne fait que monter. On a l'impression qu'on va finir par exploser. La plupart des gars prendraient n'importe quel prétexte pour tirer quelques balles.
Le sous-lieutenant Barry Romo a 19 ans et il se trouve au Vietnam depuis 6 mois à diriger des missions de recherche et destruction.
Les soldats cherchaient par tous les moyens à évacuer la tension. Leur humour est noir, vraiment très noir. Ils jouent à lancer leurs baïonnettes dans le sol en visant les pieds des autres, de plus en plus près. Je leur dis, si vous vous blessez, vous devrez quand même
marcher comme ça. Mais ils s'en fichaient. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'échapper à cette atmosphère plus que pesante en faisant des blagues plus que douteuses. Et puis quand on se trouve à attendre dans une zone reculée, la réalité au quotidien, c'est aussi les prostituées, la drogue, ce genre de choses.
Tandis que Barry Romo et ses hommes s'adaptent au rythme de cette guerre, des dizaines de millions de Vietnamiens se préparent pour la fête la plus importante du pays. La nouvelle année lunaire, le Tet. Le Tet marque l'arrivée du printemps. Un moment où on rend hommage aux ancêtres et où on espère une nouvelle année heureuse. Depuis le début de la guerre, le Tet marque aussi un moment de paix, où les ennemis cessent le combat durant 2 jours. Beaucoup de soldats sud-vietnamiens étaient déjà rentrés chez eux. Mais juste avant le Tet, l'ordre a été donné de rappeler tous les hommes. Apparemment, l'armée populaire vietnamienne se rassemblait autour de certaines villes. C'était la première fois que j'entendais parler
d'une offensive à venir. Et des personnes du premier corps stratégique, certains des renseignements en tout cas, pensaient qu'elle allait avoir lieu.
Pourtant, beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. Certains pensent que les communistes ne lanceront aucune offensive majeure, qu'ils en sont incapables. Mais je n'en suis pas si sûr. J'ai combattu ces salauds en pleine brousse. Ils sont très malins et sacrément obstinés. Pourtant, lorsque la nuit tombe, le 30 janvier 1968, nombreux sont ceux qui pensent que cette célébration sera semblable aux précédentes. Une nuit de festivité paisible.
Ce 30 janvier, donc, la nuit commence et dans la nuit du 31, à 2h du matin précisément, ce sera la grande offensive du Vietnam du Nord. Et offensive qui va se développer simultanément en plusieurs points du Vietnam du Sud jusqu'à Saïgon, ce qui va désorienter les forces américaines. Forces américaines qui avaient donc été partiellement averties de ce qui était en train de se passer, mais comme souvent, les services secrets américains étant disparates, puisque la CIA, les services secrets de l'armée, les agences indépendantes comme la NSA, ou en tout cas qui n'existait pas à l'époque, mais une agence identique, avaient donné des informations fragmentaires, mais qui n'étaient pas recoupées puisqu'il n'y a pas d'organe central d'information des services secrets aux États-Unis. Et du coup, le général en chef, Westmoreland, n'a pas pu probablement prendre les décisions qui s'imposaient, ou en tout cas les a prises trop tard. Et ce fut le début de l'embourbement des États-Unis qui n'a cessé jusqu'à la fin du règlement du conflit. Je vous propose de faire un petit retour en arrière pour comprendre comment, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à ce moment-là, comment s'est engagée et développée la guerre du Vietnam.
La première phase du conflit vietnamien commence à l'automne 1945, quand les dirigeants de l'Indochine française désirent réaffirmer leurs droits coloniaux après la Seconde Guerre mondiale. Mais ils sont bientôt menacés par les communistes du Viet Minh, qui remportent la victoire sur les Français en mai 1954 lors de l'interminable bataille de Dien Bien Phu à 320 km d'Hanoï. Deux mois plus tard, à la conférence de paix de Genève, le Vietnam est partagé en deux au niveau du 17e parallèle. Le Nord-Vietnam a pour capitale Hanoï et le Sud, Saïgon. Ho Chi Minh, le leader communiste du Viet Minh, contrôle le Nord-Vietnam. Ngô Đình Diệm gouverne le Sud. Hanoï est bien décidé à réunifier le pays, mais sous la bannière communiste. Les anciens membres du Viet Minh vivent au Sud Vietnam dans la clandestinité et sont appelés Viet Cong. Le président des États-Unis, Eisenhower, craignant que les communistes ne mettent la main sur le Sud Vietnam et deviennent une menace pour tout le sud-est asiatique, soutient Diem. Fin 1954, il envoie des instructeurs pour entraîner les nouvelles forces armées du Sud Vietnam. Trois ans plus tard, encouragé par Hanoï, le Viet Cong reprend la guérilla dans les zones rurales du Sud-Vietnam. Le gouvernement de Diem prend des mesures draconiennes pour le combattre, ce qui entraîne des troubles parmi la population et, en 1960, une tentative de coup d'État militaire. Les États-Unis répondent par l'envoi de 900 conseillers militaires supplémentaires. En janvier 1961, le Nord-Vietnam forme au Sud-Vietnam le Front National de Libération. Son but est de renverser le régime de Saïgon. Le président John Fitzgerald Kennedy répond en déclarant que le Sud-Vietnam a le soutien inconditionnel des États-Unis pour vaincre la menace communiste. Et suite à cette déclaration, il déploie au Vietnam un premier contingent de 2 compagnies d'hélicoptères. En février 1961, un commandement d'assistance militaire est établi. Et rapidement, 9000 hommes opèrent dans le pays. Les troubles se multiplient et Diem est assassiné en novembre 1963. Son régime symbolisait la corruption endémique et la faiblesse des gouvernements successifs de Saïgon qui entravaient les efforts américains au Vietnam. En janvier 1964, le général Westmoreland arrive au Vietnam pour commander les forces américaines. Quand il prend le commandement, le Viet Cong contrôle la plupart des zones rurales du Sud et domine l'armée sud-vietnamienne. En août 1964, l'attaque du destroyer Maddox par les patrouilleurs nord-vietnamiens dans le golfe du Tonkin marque un tournant décisif. Les Américains répondent immédiatement par des frappes aériennes sur les bases navales et pétrolières nord-vietnamiennes. Le président Johnson déclare que l'armée américaine est prête à contre-attaquer et déclare à ses alliés « Dans le sud-est asiatique, nous apporterons notre aide à tous ceux qui nous la demanderont pour défendre leur liberté. » Il assure à ses concitoyens qu'il ne veut pas étendre la guerre. Mais les dés sont jetés. L'incident du Tonkin marque le véritable commencement de l'interminable guerre du Vietnam qui n'a jamais été déclarée. En moins d'un an, la situation empire considérablement, Diap ayant donné l'ordre au Viet Cong d'attaquer les cibles américaines, en particulier les bases aériennes autour de Saïgon. L'Amérique s'enfonce dans la guerre. Et le 8 février 1965, l'opération Tonnerre roulant contre des objectifs précis au Nord-Vietnam tente de dissuader ses dirigeants de soutenir le Viet Cong. Westmoreland réclame aussi 2 bataillons de Marines pour protéger l'importante base militaire aérienne de Da Nang. Un mois après le début de l'opération Tonnerre roulant, les Marines se déchaînent dans le pays. Les Américains envoient pour la première fois des troupes terrestres. Mais l'opération manque son but. Pire, elle conduit les Chinois et les Soviétiques à soutenir le régime nord-vietnamien. Ils condamnent l'intervention américaine et fournissent à Hanoï des armes, du matériel et des moyens financiers. Au milieu de l'année 1965, Ho Chi Minh et Diab, son chef militaire, déclarent que la sécurisation du Vietnam ne peut se faire qu'avec le soutien total de l'armée nord-vietnamienne. Cet été-là, après les nouveaux revers que subit l'armée sud-vietnamienne, Westmoreland réclame une politique militaire plus agressive pour pouvoir soutenir ses alliés. Le président Johnson accepte et ordonne un renforcement massif. En 1967, les forces américaines au Vietnam atteignent 500 000 hommes, auxquels s'ajoutent des troupes venues d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Corée du Sud et de Thaïlande. Des pays qui veulent prévenir une éventuelle expansion du communisme en Asie du Sud-Est. Westmoreland croit qu'il va pouvoir petit à petit gagner la guerre. Les forces alliées sont supérieures technologiquement, financièrement, et adoptent une tactique qui va accroître considérablement le nombre de morts chez les Vietcong. Mais Giap ne s'avoue pas vaincu. Il lance un assaut général sur le Sud-Vietnam. L'issue de ce conflit va dépendre du talent militaire et de l'expérience des deux généraux.
Et c'est ainsi que le talent militaire du général Giap, une fois de plus, triomphera de la puissance militaire américaine, puisque je vous rappelle que le général Giap est celui qui avait déjà vaincu les Français et gagné la bataille de Dien Bien Phu, jetant donc dehors les forces militaires françaises. Leur succédant, les Américains n'auront pas plus de chance, et donc le général Giap sera fait maréchal à la fin de son existence, considéré comme un héros au Vietnam du Nord, puisqu'il va donc contribuer à libérer l'ensemble du pays qui sera donc réunifié. C'est devenu aujourd'hui une puissance régionale très importante que le Vietnam, et c'est un pays qui contribue à une certaine stabilisation de la péninsule indochinoise. Ils ont joué un rôle considérable dans ce qui s'est passé notamment au Cambodge avec la période très noire qu'a traversé ce pays. Dans le reste du monde, eh bien, la vie continue, la musique aussi, et donc à Paris notamment, et on voit se succéder toute une série de musiciens américains qui viennent se produire. Et il en est un qui se produit donc le 26 octobre 1968 à l'Olympia, il s'agit de Frank Zappa. Alors, une chanteuse se rend également en tournée à Paris. Il s'agit de la fameuse Lady Soul, Aretha Franklin. Elle reprend notamment un thème cher aux Rolling Stones, I Can Get No. Aretha Franklin, I can get no satisfaction. Je vous promets d'ailleurs une petite surprise dans un autre épisode de la série 68 avec un duo avec Sammy Davis Jr. Et maintenant, génie. Attention, génie. Il s'agit de Bill Evans, le pianiste du fameux album Kind of Blue avec Miles Davis. A pris son autonomie, il a créé son propre trio qui existait déjà bien sûr avant Kind of Blue, mais là il ne joue plus qu'en trio. On est en 1968 et il réunit autour de lui probablement l'un des plus beaux trios de jazz. Il se produit en concert et en public à Montreux en Suisse au cours du fameux festival de Montreux dont c'est la deuxième édition d'ailleurs, il faut le signaler. Il se produit donc avec à la basse Eddie Gomez, à la batterie Jack DeJohnette, et c'est le premier thème qu'il joue, c'est One for Ellen.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on drums, Jack DeJohnette. Thank you.
One for Hélène, donc une composition de Bill Evans, un hommage à sa productrice Hélène Keane, enregistrée le 15 juin 1968 au Festival de Montreux. Bill Evans était accompagné d'Eddie Gomez à la basse et de Jack DeJohnette à la batterie. Ainsi s'achève cet épisode de l'année 1968. Demain, de nouvelles aventures et de nouvelles histoires.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.